ça c'est sûr.
Peut-être avancer un petit peu et arriver à ce livre qui s'appelle Cercle. C'est un livre d'abord qui a été important parce que il me semble que dans votre parcours, c'est le livre peut-être qui vous a ouvert à un plus large public, à une reconnaissance très forte d'un point de vue critique. C'est un livre dans lequel il y a ce personnage de Jean Deschelles et c'est un personnage qui va aussi ancrer un certain nombre d'autres personnages qui se situent, alors je ne sais pas s'il faut dire en quête de liberté, en quête de marginalité, qui se met à l'écoute de son propre désir ou qui décide de ralentir, de s'arrêter par rapport à la marche de la société. Cette rencontre, les organisateurs l'ont appelée « reprendre vie ». Et c'est la première phrase, effectivement, de Cercle. C'est maintenant qu'il faut reprendre vie. Peut-être s'arrêter là-dessus, à la fois sur ce livre et puis sur cette dimension-là, je dis la quête de liberté, on pourrait dire la quête d'absolu. C'est le moment où vous placez vraiment cette chose-là dans Cercle, me semble-t-il.
En effet, c'est un livre qui... C'est pas mon premier livre et pourtant, à un moment de ma vie, vers 35 ans, j'avais écrit quelques livres, mais je sentais que c'était pas encore ça, enfin. Bon, c'est jamais ça, hein. Mais c'est presque ça, parfois. Mais je me disais, bon, cette fois-ci, ça suffit. Je vais créer les conditions dans ma vie pour vraiment écrire une chose dont je pourrais me dire, voilà, je l'ai tenté au moins, le grand livre, le grand roman européen. Je me disais ça avec une espèce de fierté, je vais écrire le grand roman européen. Non pas pour surclasser toutes les littératures, mais un roman justement qui sort de mon petit périmètre. À l'époque, je vivais à Paris, et je me disais, il faut sortir de sa vie. Et le problème, c'est que du coup, j'ai pris cette injonction que je me faisais à moi-même vraiment de manière littérale. J'ai tout quitté. La femme avec qui je vivais, la pauvre, enfin, les écrivains sont un peu bizarres, mais mon métier, tout, enfin, même le rapport avec l'argent, enfin, j'ai tout fichu en l'air pour me mettre dans une situation. Comme un artiste, au fond, dans une situation expérimentale à partir de laquelle je n'avais plus le choix. Et je me suis donc décidé à me prendre pour un personnage que je n'étais pas vraiment. C'était le personnage que je projetais. Je me disais, si j'étais un héros comme ça, un héros de la fin du XXe siècle, du début du XXIe, quelle vie j'aimerais vivre ? Une vie de liberté, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on met sous ce mot, encore faut-il se jeter dans cette liberté, en souffrir même d'ailleurs, et pour en jouir. Et donc j'ai inventé ce personnage, un double, enfin un Jean Deschelles, c'est moi en mieux, mais en pire aussi. Et du coup j'ai commencé à vivre un peu comme lui, c'est-à-dire que bah, comme j'avais plus aucune attache, parce que j'avais tout fichu en l'air dans ma vie, je suis parti comme lui, je suis parti d'abord à Berlin. C'était un vieux fantasme, là aussi, David Bowie, d'écouter les disques de David Bowie. De ça. Bon, je suis allé m'établir là-bas, dans une petite chambre, pour trois fois rien. Enfin, et j'avais quelques économies, parce que j'avais été prof, donc c'était ma vocation. Enfin, c'est une vocation que j'ai contrariée. Enfin, j'ai été prof très tôt, enfin, à 21 ans, jusqu'à 35 ans. J'ai pris ma retraite à 35 ans, vous voyez. Et c'est un désastre, hein, évidemment, pour la retraite. Et donc, je notais tout ce qui m'arrivait, parce que pour peu qu'on prend la décision de se rendre disponible à tout, aux autres, bah, la vie devient passionnante. Hein. Le moindre détail s'ouvre à vous, vous semble destiné. Et puis, je suis allé jusqu'en... J'ai loué une petite voiture, je suis allé jusqu'aux confins de la Pologne, Prague aussi. Je pensais à l'époque, je le pense toujours... C'est absolument sans raison, hein. Je veux dire, c'est pas justifiable, que c'est à l'Est, c'est vers l'Est que va le récit. Voilà. Je me disais, le récit va s'accroître à mesure que j'irai vers l'Est. Bon, moyennant quoi, j'écrivais comme ça, comme un fou, comme un illuminé, comme un poète, comme le poète que je me rêvais être. Sur des cahiers, des petits cahiers Clairefontaine, là, grand carreau. J'ai toujours écrit à la main, et c'est une méthode désastreuse, parce qu'après, quand il faut se retrouver les choses, les taper, bon, je sais pas. Et de cette matière enflammée, avec toutes sortes de rencontres, enfin des rencontres magiques, parfois nulles, désastreuses, des embardées un peu à la Kerouac, enfin, et puis des découvertes culturelles, et puis l'obsession aussi pour les lieux de mémoire de la Shoah aussi. Je tournais autour en voiture de location, là en Pologne, je me perdais en fait. Et puis surtout, le temps. Le temps était là, à disposition. J'ai vécu comme ça des mois et même des années d'une liberté inouïe, enfin, de détresse aussi, parce que j'avais choisi cette solitude-là. Mais au fond, c'est ça qui m'a fait vraiment entrer, si je puis dire, je ne sais pas si on y entre, mais en littérature. Là, je me suis dit, j'ai mené cette expérience, j'ai fait ça, et puis quand il s'est agi de mettre tout ça en livre, j'ai repris tout ça, enfin, ça faisait 2500 pages, figurez-vous. J'ai évidemment réduit. Mon éditeur était affolé, quoi. Il me dit, vous êtes fou, mon cher. Et je prenais ça comme un compliment. Et ça fait 500 pages, c'est déjà pas mal. Mais c'est une véritable odyssée. Et je me disais, bon, voilà, à partir de là, je me suis dit, il va falloir se tenir dans la fidélité à ce premier geste que j'avais initié moi-même, sans que personne me le demande, dans ma vie, dont je n'héritais pas. C'est la première fois que je prenais vraiment une décision comme ça, un peu irraisonnée, sur un coup de tête, comme on dit. Et ce coup de tête m'a fondé. Et je me suis dit, maintenant, il faut plus détourner de ce cap. J'appelais ça le cap au libre. Cap au libre. Je me disais ça tout seul dans ma voiture de location, en me récitant des pages.
Il y a quelque chose qui est ancré aussi très fort dans Cercle tout de suite, c'est le rapport à la littérature et à deux égards, parce que la forme de Cercle en trois parties fait directement référence à la Divine Comédie, même si vous avez tordu d'une certaine manière ou inversé. Et puis il y a d'emblée le personnage Jean Deschel qui est en quête de livres. Parmi les rencontres, il y a aussi la rencontre des livres, notamment Moby Dick, qu'on retrouvera à d'autres endroits dans l'œuvre, mais il y a tout de suite cet ancrage aussi dans la littérature. Vous êtes un écrivain lecteur et vous inscrivez vos pas, en tout cas dans une forme d'héritage littéraire. C'est quelque chose qui caractérise aussi votre rapport à l'écriture.
Je ne sais pas comment font les autres, mais je pense que... moi, en tous les cas, je mets des livres dans mes livres. Et puis parce que c'est ma passion première, principale, enfin, c'est lire, quoi. C'est jusqu'à l'épuisement. Enfin, encore aujourd'hui, je suis heureux que cette passion soit inextinguible. J'ai soif, voilà. Je suis quelqu'un de ce qu'on appelle précisément d'intempérant. L'intempérance, c'est quand le désir ne vise pas à se satisfaire, mais à rester un désir sans cesse qui se renouvelle. Et c'est l'amour, quoi, l'amour fou. Et avec la littérature, pas nécessairement l'écriture, hein, parfois, comme tout le monde, j'écris moins ou j'arrive moins bien à écrire. En général, je fais partie des écrivains qui écrivent beaucoup et tous les jours. Mais la lecture, ça, c'est ma passion principale, enfin, c'est ma bien-aimée, enfin. Et je lis beaucoup de livres en même temps, je relis, j'ai une bibliothèque, c'est l'orgie chez moi, enfin, il y en a jusqu'au plafond, partout, c'est n'importe quoi, mais j'aime ce château enchanté que je transporte avec moi, où la féerie est là, et ça m'a toujours sauvé, en fait, et même dans les moments les pires, je sais pas, ça, je vais pas dramatiser, mais les moments comme ça d'abandon, de magie. Et même quand dans mon épopée un peu foireuse là, avec cette voiture de location, quand je me retrouvais sur les routes de Pologne orientale, je comprends pas le polonais, donc pour sinuer sans carte, c'était un peu limite pour lire les pancartes. J'avais mon carton de livres. Je dormais dans la voiture parce que j'avais loué un break et puis il y avait j'avais mis un matelas. Mais c'était la belle vie, vous pouvez pas savoir. Enfin, c'était, je sais pas, j'étais allumé, quoi. Et ce feu avec un carton de livres, une lampe torche, et puis la possibilité de se moquer totalement des horaires, d'aller prendre un café dans une auberge, pas possible, là, près de Lublin, en Pologne orientale, ou dans un bled à côté de Prague, ou même en banlieue parisienne, où je vis maintenant, Mais pour moi, ça a toujours été l'aventure. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je suis un peu ahuri comme type, mais ça me suffit, en fait. Et donc, la littérature, bien sûr, la littérature, en fait, secrètement, est toujours une ode à la littérature. Et moi, j'ai une dévotion particulière. Ça a pris la place de la religion chez moi, la littérature. Donc, Kafka, Melville, Bataille, Proust, Christina Campo, Duras, Moby Dick. J'en ai parlé tout à l'heure, peut-être certains et certaines étaient là, de mes livres préférés. Mais en fait, j'en ai 500 de livres préférés, 1000. Enfin.
Il va nous falloir quelques heures. Peut-être pour poursuivre sur finalement l'avancée aussi de votre travail, j'ai évoqué deux autres livres où on retrouve ce personnage de Jean Deschelles, c'est Les renards pâles et puis c'est Tiens ferme ta couronne. Et peut-être parler de ces deux livres sur des questions un peu spécifiques. Il me semble que sur Les renards pâles, il y a de nouveau un personnage qui se met au banc de la société, qui va décider de vivre dans sa voiture et puis qui va petit à petit aller vers une dimension plus politique au monde, une sorte d'inscription dans la révolte. Peut-être nous dire un petit mot de cela. On traverse un peu rapidement, mais il me semble que c'est intéressant pour le public de comprendre ces enjeux-là aussi des différents livres. Les renards pâles, vous diriez qu'il y a quelque chose de cet ordre, de plus explicitement politique, une volonté d'inscrire cette dimension-là de manière plus forte?
Oui, Les renards pâles, c'est un livre, c'est tout petit, hein, c'est comme une maquette. Je rêvais d'écrire une grande épopée. Une épopée politique, l'épopée de ce qu'on appelle aujourd'hui, en les nommant mal, ce qu'on appelle les migrants. Je trouve ça moche comme terme. Et les réfugiés, disons, les exilés. Et j'ai toujours vécu à Paris. Moi, je suis de Rennes, de Nantes, de villes de l'Ouest. Mais très vite, jeune prof, j'ai été balancé en banlieue parisienne. Donc, j'ai vécu à Paris. Voilà, ça fait 30 ans que c'est dur. Et maintenant, à nouveau en banlieue. Et j'ai toujours vécu dans des quartiers africains. Et comme je vivais enfant en Afrique, vous voyez, j'ai une espèce d'amour en fait pour les Maliens notamment. Je vis dans un quartier malien à Montreuil, et bon, c'est ma vie, et je me sens une communauté d'esprit. Et bon, j'ai voulu avec Les renards pâles, peut-être je me suis mis un peu trop à découvert dans ce livre. On m'a vraiment fait des remontrances à l'époque. Et, le milieu de la littérature est très bourgeois. Et comme je prenais fait et cause dans ce livre, pour une espèce de... Bah c'est une fiction politique, pour une espèce d'insurrection des sans-papiers, des sans-domicile fixe, de tous les sans, la communauté des sans, S-A-N-S, et que j'imaginais une insurrection masquée, enfin avec un masque, dans Paris, ça a un peu déplu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'époque où le président de la République s'appelait Nicolas Sarkozy et il avait inventé ce truc avec un certain Brice Hortefeux qui s'appelait le ministère de l'identité nationale. Bon, aujourd'hui, on se dit c'est ahurissant. Bon, je sens que ça va... Enfin, on sent tous que ça risque de revenir, mais bien plus fort. Mais Paris avait le... Enfin, en France, il y avait le record de garde à vue en Europe. Où tous mes amis se faisaient arrêter, une espèce d'intellectuel inoffensif dans Paris, pour n'importe quel... Bon, bref. Et j'avais essayé de cristalliser, là, dans un roman, cette hantise politique d'être menacé par une autorité abusive, quoi, comme toute autorité. Et bon, je ne sais pas trop comment raconter ça, mais c'est un livre très politique, effectivement. C'est un livre... qui devient un manifeste. Je rêvais aussi d'écrire une petite fiction d'un type qui se promène dans Paris, comme je fais, moi, qui finalement se met à vivre un peu parce qu'il n'a pas fait attention, il ne paye pas son loyer, il est un peu distrait, quoi. Puis il a pas fait, enfin, il gagne pas beaucoup d'argent et il se retrouve à vivre dans sa voiture, mais de manière, c'est pas tragique, disons, il s'en fout d'ailleurs. Ça va très bien, enfin. Et d'un coup, il se retrouve au cœur involontairement d'une insurrection. Il devient peut-être même l'instigateur de cette insurrection. Il y a des choses qui s'écrivent sur les murs. Et au fur et à mesure de cette fantaisie politique, fantaisie très sérieuse, je me suis mis finalement à adopter le ton du manifeste. C'est-à-dire les renards pâles. Le renard pâle est l'un des dieux de la cosmogonie Dogon. C'est un dieu un peu anard, un peu anarchiste. C'est le mauvais fils. Vous savez, dans toutes les religions, il y a ça. Il y a le modèle du mauvais fils que le père fondateur rejette. C'est un peu le malin, enfin, Satan, disons. Et moi, je le voyais dans le poster de David Bowie, là, le renard pâle, vous voyez, ça a toujours été mon dieu, Mes héros, ça a toujours été des gens comme ça qui cristallisaient une puissance spirituelle et en même temps quelque chose, comme vous le disiez, d'un à côté, enfin, pas des parias, mais des gens qui ne souscrivent pas à la société et qui sont légèrement à côté. Enfin, parce que c'est la position de l'écrivain pour moi. C'est la position la plus intéressante. Enfin, dans la vie, je n'ai pas nécessairement cette position. J'aime participer, j'aime en être, j'aime la présence. Mais quand on écrit, on est juste à côté de biais. Vous voyez, les obliques deviennent passionnantes, les obliques deviennent poétiques et politiques. Donc voilà, ce livre, j'en ai du coup beaucoup parlé, Les Renards Pâles.
Peut-être dire un mot du suivant, et puis après on va arriver à la peinture et à Bleu Bacon, mais parler quand même de Tiens ferme ta couronne, peut-être à l'aune de deux dimensions qui me semblent très fortes. C'est le rapport, peut-être, j'ai parlé du mal, de la violence, de l'histoire. Ce livre-là met en scène un personnage qui veut adapter Moby Dick au cinéma et qui voudrait que ce soit Michael Cimino qui le tourne. Donc il y a quelque chose autour de Voyage au bout de l'enfer, autour du chasseur et de la proie, toutes ces dimensions-là. Et puis, il y a à l'intérieur deux choses qui ont à voir avec la violence de l'histoire. C'est le livre de Reznikov, qui s'appelle Holocauste, qui fait référence, bien sûr, à aussi ce que vous avez pu traiter dans Karski, ce que vous avez évoqué lors de votre voyage vers l'Est. Et puis, une violence de l'histoire plus contemporaine, qui sont les attentats de 2015, que d'ailleurs, le personnage vit à côté, puisqu'il est en train de se saouler dans un bar au moment où les choses se produisent. Peut-être nous parler de ces deux lames de fond. Je vous demande des choses difficiles, parce que c'est des très gros enjeux à évoquer de manière un peu brève, mais il me semble que cette violence de l'histoire et la manière dont on s'inscrit dedans, ou dont on met des mots dessus, est au cœur de ce livre-là, Tiens, ferme ta couronne, même si par ailleurs il fait preuve aussi de fantaisie, voire de burlesque, pourquoi pas.
Ah bah, je suis content que vous parliez de burlesque. Moi, mon idéal, vous voyez, je commence par là, mais je vais répondre à votre question. Mon idéal, ce serait un mélange de Buster Keaton et de Saint-François d'Assise. Vous voyez, ça serait génial. Mais bon, il y a du boulot parce que faudrait que ce soit presque au bord de la sainteté, enfin une chose, arriver à, par le langage à être à hauteur comme ça de la caritas, vous voyez, du cœur qui comprend, comme on dit dans la Bible à propos du roi Salomon, le cœur qui comprend. Et en même temps, d'avoir l'humour fou, quoi. Et puis l'humour, on ne peut pas vouloir l'avoir, parce que si on veut être drôle, alors là, on devient con, quoi. Et bon, alors, c'est pour dire que Tiens, ferme ta couronne, c'est un livre qui est illuminé comme ça le fait de tomber comme ça des deux côtés, d'aller vers une sainteté bizarre, et puis de sombrer dans le burlesque le plus débile, quoi. Mais la question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'il est possible d'être un poète ? Parce que moi, je ne fais pas de poésie, enfin, je n'écris pas des vers. Mais je veux dire, dans la vie, c'est quoi avoir un regard poétique sur les choses ? C'est quoi vivre poétiquement ce qu'on vit, c'est l'amour, l'amitié, le travail ? Vivre poétiquement, c'est aussi ouvrir le temps, avoir cette capacité à ne plus s'enfermer, mais à être constamment avec les étoiles, enfin, mais aussi avec le chaos du monde, parce que pour moi, un poète, c'est pas quelqu'un, ou une poétesse, c'est pas quelqu'un qui se détourne de la tournure maléficiée du monde, c'est au contraire quelqu'un qui l'entend et qui parvient à la transfigurer. Alors, Tiens, ferme ta couronne, c'était mon interrogation. Interrogation d'autant plus brûlante que, bah, comme tout le monde, puisque ça se passe en 2015, ce livre. Comme tout le monde, j'avais été frappé de plein fouet au moins deux fois, en janvier et en novembre, par les attentats. Oui. Et d'autant plus frappé qu'en janvier 2015, quelques semaines après les attentats contre Charlie Hebdo, l'hypercacher et la policière Clarissa Jean-Philippe, j'ai reçu un coup de fil étrange d'une amie, que vous connaissez peut-être, la romancière Marie Dariussec, qui me disait: je viens d'être engagée par Charlie Hebdo, il cherche des écrivaines, des écrivains, est-ce que tu en es, oui ou non, il faut que je... t'as 30 secondes parce qu'il faut que je les rappelle. J'ai dit oui, oui, bah oui, ok, sans me rendre compte de ce que je faisais, parce que je trouvais que c'était la chose à faire de dire oui, mais c'était pas trop mon truc, moi, Charlie Hebdo, vous voyez, je lisais Rimbaud, Kafka. Je dis pas que Charlie Hebdo c'est pas la même chose, mais c'est un autre univers. C'était pas. Mais j'ai dit oui et je me suis retrouvé à être à la rédaction de Charlie Hebdo tout de suite après les attentats. Libération, ils étaient à Libération à l'époque. Et puis après, il y a tout plein d'aventures que j'ai vécues avec Charlie Hebdo, notamment le procès. Mais dans ce roman, je voulais aussi donner le pouls. Vous voyez, l'agitation, la température psychique qu'il y avait à Paris, une espèce de chose étrange qui a duré toute l'année et bien plus, de menaces et de choses un peu folles. Enfin, les soirées n'étaient pas les mêmes, enfin, je ne sais pas comment dire ça. Et ce personnage, un type bizarroïde, un peu un loser qui veut raconter la vie de Melville sur 700 pages, évidemment, aucun producteur ne veut financer son film. J'ai imaginé sa vie et comme dans les films un peu fauchés, vous voyez, dans les productions françaises, les films d'auteur que j'adore, j'ai utilisé le décor que j'avais, c'est-à-dire chez moi. Donc c'est un livre qui se passe dans mon salon, sur mon divan, sauf que j'ai projeté un type, une espèce d'hurluberlu qui est passionné de cinéma comme je l'ai été. Quand je vivais à Rennes d'ailleurs, c'était ma passion principale, la cinéphilie. Je voyais 4 films par jour, enfin c'était fou et merveilleux. Grâce à la bibliothèque universitaire où il y avait des écrans, on pouvait regarder des Romer, des Godard, des Pasolini, tout. Bref, et ce type regarde des films toute la journée. Et sa théorie, c'est que dans tous les films, il y a un moment où on voit un cerf qui passe avec ses bois. Et faites l'expérience, vous allez voir. Si, c'est un bon film. Hein. Et c'est un personnage un peu fantasque. Et je ne sais pas si je réponds à votre question, d'ailleurs je l'ai oublié.
C'était sur la résurgence de l'histoire et sur ce moment-là aussi, effectivement, et la façon dont la violence de l'histoire percutait le personnage de ce livre. Ouais.
Comment est-ce qu'on endure ça, voilà, quand on est quelqu'un qui a les sensations à vif, voilà, c'est... Moi, j'aime bien qu'un roman ne se cantonne pas à raconter seulement une histoire, mais qu'il y en a, quand il y en a plein. Bon, c'est des histoires d'amour que je raconte, parce qu'évidemment, il va rencontrer une femme qui va relancer, qui va le remettre en vie, au fond, ce type qui est un peu impaumé, presque innocent. Mon personnage préféré dans la littérature, j'aurais pu en parler d'ailleurs tout à l'heure, c'est le prince Michkine dans L'Idiot de Dostoïevski. C'est quelqu'un qui est presque un saint, mais qui est aussi un peu loufoque, et qui a un rapport avec les autres d'étonnement et d'absence d'autorité, voilà. Il ne veut absolument exercer aucun pouvoir. Alors ça, c'est une chose que les hommes politiques feraient bien de méditer un peu, mais en tous les cas, moi, ça me fait réfléchir. Voilà.
On va parler un petit peu de ce Bleu Bacon, hein, le nouveau livre que vous avez fait paraître là aux éditions Stock, dans cette belle collection Ma nuit au musée, et qui fait suite à d'autres écrits, je le disais en introduction, autour de la peinture. J'ai parlé du Caravage, j'ai parlé de Guenillé, qui est un auteur, un peintre plus contemporain. On pourrait ajouter Delacroix. Peut-être avant de rentrer dans Bacon, nous dire un mot de cela. Je crois que le Caravage est le premier moment où vous avez vraiment pensé l'écriture sur la peinture. On va bien sûr rentrer dans Bacon et dans ces livres-là, mais peut-être nous dire un mot de la façon dont vous envisagez ces livres. Est-ce que vous les envisagez ensemble, d'ailleurs? Caravage, Delacroix, Guenillé, Bacon, d'une certaine façon. Et qu'est-ce que vous avez envie de chercher là-dedans? Est-ce que c'est d'expliquer le rapport que vous avez à la peinture, en tant qu'écrivain et en tant qu'homme? Est-ce que c'est une manière d'inscrire le langage pictural dans le langage littéraire? Comment est-ce que vous envisagez finalement ce rapport-là à la peinture, aux œuvres et ces 4 livres qui pourraient être placés presque ensemble dans la bibliothèque?
Mais c'est vrai que tout ce que vous avez dit est juste, hein. Je dis oui à tout, enfin à tout ce que vous dites là, mais je vais essayer d'approfondir aussi. Comment dire ça? La peinture est devenue au fur et à mesure de ma vie, et ma vie plus récente, une passion fondamentale, enfin... Parce que, pour toutes sortes de raisons, enfin, je crois que face au tableau que j'aime, je sens que mon regard, je sens que mon regard se concentre à nouveau. Je ne sais pas vous, mais je sens que j'arrive moins à me concentrer qu'avant. Je sens que je suis constamment requis, sollicités, mobilisés par une espèce d'affolement d'informations, de je sais pas quoi, de mails, de choses à faire. Enfin bon, c'est la vie même, c'est sa beauté. Mais l'écriture me permet de, à ceci de beau, qu'elle me permet de concentrer mon désir et mes capacités. Et il se trouve que la peinture comble un désir qui m'est inconnu. Un désir qui est sans objet. Alors vous me direz, peut-être c'est la beauté, je ne sais pas, mais parfois j'aime des peintures qui ne sont pas nécessairement belles. Francis Bacon, ça fout les jetons un peu quand même. Mais non, c'est un transfert d'intensité. Je sens qu'il peut nous arriver des choses avec les œuvres d'art que nous aimons qui relèvent parfois d'une histoire plus belle qu'avec certains êtres, enfin. Et mais il se trouve pour, ça a l'air d'être une anecdote, mais ça n'en est pas seulement. Vous vous souvenez de l'institutrice dont je vous ai parlé, enfin voilà, j'y reviens. Mais il se trouve qu'il y a eu une deuxième femme, un peu après, tout aussi idéale et tout aussi intouchable, si je puis dire, puisque c'était un tableau. Je fais partie de ces cinglés qui peuvent tomber amoureux d'une image. Et ça soigne peut-être, mais je ne veux surtout pas être soigné. Et c'était là-haut, dans un pensionnat militaire, où j'ai eu un coup de foudre. Mais je me souviens encore du moment précis où j'ai découvert, dans une encyclopédie de la peinture, enfin une espèce de livre, un peu de vulgarisation, un visage. C'était un détail, hein, c'était coupé ici au buste, un visage comme dit le docteur Lacan. J'ai rencontré l'objet de mon désir. Waouh. Et là, j'avais 15 ans. J'étais comblé. Je me disais, bah, c'est bon, c'est fait. Et sauf que c'était du papier. Et c'était, je savais pas qui était cette femme. Enfin, elle était merveilleuse. Elle avait les sourcils froncés. Vous me direz, bon, ah bon, c'est ça qui vous plaît. Elle avait les sourcils froncés et ce froncement était repris dans son corsage qui était lui aussi froncé. Et qui faisait apparaître une poitrine, évidemment, qui me stupéfiait. Moi, j'étais là à 15 ans, dans ce que je pouvais en voir. Enfin, je veux dire, elle n'était pas nue, hein, s'il y avait un beau corsage. Et ce visage d'une douceur qui me rappelait une certaine institutrice, enfin, approfondissait quelque chose pour moi du monde. Tout est devenu beaucoup plus passionnant pour moi dès que j'ai vu ce petit morceau de peinture en noir et blanc, en plus, dans un mauvais livre. Et bon, et je l'ai découpé au cutter. Voilà, les psychanalystes vont se régaler, en me cachant pour pas que la personne qui tenait la petite bibliothèque là de mon pensionnat le voie. J'ai découpé ça soigneusement. Je l'ai pris, je l'ai gardé, quoi, pour la regarder tranquillement dans mon lit. Et des années plus tard, je vous jure que tout ça est vrai. Enfin. Et des années plus tard, à 30 ans, je crois, parce que je ne savais pas qui avait peint ça, je m'en foutais un peu à 15 ans, enfin, je n'avais pas regardé, quoi. Un jour, à Rome, au Palazzo Barberini, merveilleux petit musée, je la rencontre. C'est un tableau du Caravage, mais elle était en couleur en plus, encore plus belle. Mais le problème, c'est que j'ai eu un choc parce qu'elle était en train de découper la tête d'un homme. Bon, mon psychanalyste imaginaire m'a dit, bah, c'est toi. Et ça a été le début de ma passion pour la peinture. Voilà. Et bon, vous voyez, j'ai des rapports un peu aphrodisiaques avec la peinture, qui sont un peu hétérodoxes. J'y projette des choses, évidemment, mais ça me fait aussi, comment dire, bah, je me documente aussi, je veux savoir, donc je vais tout voir, je lis des choses sur l'histoire de l'art, et au fil des années, en fait, de manière passionnée, comme ça, ça a pris une place prépondérante, enfin, dans ma vie intérieure très agitée, et j'y ai consacré des livres, voilà, Le Caravage, j'ai raconté ça, et puis c'est un livre plus sérieux aussi sur le Caravage, sur l'énigme, parce que je pose une question à la peinture, voilà. Je veux comprendre, enfin, je veux aimer. Et il me semble que dans la peinture, il y a quelque chose, même la plus figurative, qui échappe au visible. La peinture, comme la photographie, enfin, on le sait tous intimement, nous donne à voir quelque chose qui est en retrait, enfin, qui peut-être n'apparaît pas, mais c'est à l'intérieur. Il y a de l'invisible dans la peinture. Il y en a dans la vie, mais c'est très difficile à percevoir. Dans les œuvres, j'ai envie de dire que je vois l'invisible. Je ne saurais pas où il est, mais c'est ça qui me frappe. Et alors j'aime les peintures, j'ai un goût particulier, voilà. J'aime les peintures qui sont un peu, elles aussi, passionnées, enfin. Et donc j'aime les peintres comme le Caravage, Delacroix, Francis Bacon, bon, des peintres un peu virevoltants, et qui ont, c'est pas des peintres vraiment violents, mais c'est des peintres qui ont peint la violence du monde et qui, je dirais, la dénude et nous la donne à voir. Avec une douceur qu'on peut, une douceur nouvelle, enfin, voilà, c'est la peinture, c'est. Et puis je trouve, juste pour finir, que notre rapport aux images est devenu si dévorant, enfin, à notre insu, que c'est pas mal d'arriver, enfin, dans ma vie, à se fixer tranquillement, longuement. Très longuement, le plus longtemps possible, sur une chose. Alors en général, c'est sur un visage, le visage d'une personne qu'on aime, et ça c'est la grande chose. Mais les œuvres d'art sont des substituts au visage de la personne qu'on aime, si je puis dire. Enfin, et parce que c'est une matière sensible, une matière qui vit, qui n'est jamais la même, et dont on ne sera jamais rassasié. Voilà.